phénomène qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement? Le magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
That boy you call is a diamond fella. All you little boys ever come in your parish. You fellow, but your fellows get tamed like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. And you, what are you gonna do? Little boys get tamed like the shoe. You midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capulet, you're monarchy, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, getting to your CV. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not too near. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. Your caller, do what you like. You much ado about nothing, all you do is buy it. I'm too tired, I don't need to all mad. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire. Better run like Pericles, Prince of Tyre. Off the scale, cold as the winter's tail, tired.
Bonsoir. Il est 19h passé de 3 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Je constate aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Attends, parce qu'on t'entend pas du tout. Pourquoi t'as changé de micro ?
Est-ce qu'il y en a un de ces deux-là qui marche ?
Voilà. C'était donc... Mais non, mais... Alors, attends.
C'était donc...
Ah, voilà.
Philippe.
Oui, merci.
C'était aujourd'hui en tout début d'après-midi. Et donc, voilà, c'est gagné. 50 ans de lutte et une victoire. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne se fera pas.
Et alors, on vous incite... fortement à aller à un rassemblement qui a lieu en ce moment au square de l'Estrin, c'est dans le 3e arrondissement, c'est se situe entre la préfecture, excusez-moi, et le Rhône. Voilà, un rassemblement qui est là pour bien sûr fêter la victoire de l'abandon du projet de l'aéroport.
Square de l'Estrin, vous voyez, c'est l'espèce de petit jardin carré là qui est près de la préfecture sur le bord du Rhône.
Voilà.
Et ben nous on va en parler un petit peu de tout ça quand même, parce que c'est une sacrée belle victoire qui a été gagnée par 50 ans de lutte. 50 ans de lutte menée par quand même toutes sortes de gens différents qui ont réussi à bosser ensemble, à lutter ensemble, des habitants historiques, des gens qui y sont allés exprès pour, des militants, des écolos, des punks, des toutes sortes de monde. On en a énormément parlé ces dernières années, nous ici en particulier, et aussi parce que les gens qui sont allés là-bas pour lutter contre le projet d'aéroport ont quand même réussi à s'organiser ensemble, à décider des choses ensemble, à vivre d'une manière hyper autogérée, comme ça sur ces quelques kilomètres carrés, mais quand même un certain nombre de gens, et depuis maintenant une dizaine d'années, il y a vraiment ces gens qu'on appelle les zadistes. Alors bien sûr, la lutte n'est pas du tout terminée, puisque côté aéroport c'est gagné, mais il reste la question de savoir ce que va devenir l'endroit, ce que vont devenir les terres, ce que vont devenir les gens. Et comment tout ça va continuer. Évidemment, Édouard Philippe a commencé par préciser aussi qu'une chose était absolument nécessaire, et c'était le rétablissement de l'état de droit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'état de droit ? Eh bien, l'état de droit, vous voyez, c'est cette pensée un petit peu qui est une sorte de jolie utopie, qui est l'idée qu'il y aurait un droit qui serait écrit, devant lequel tous les citoyens seraient égaux, que ce droit serait appliqué par un État qui lui-même ferait les règles, mais d'une manière complètement démocratique, puis les ferait appliquer, que ces règles à des moments contraindraient aussi l'État et aussi les riches et aussi les puissants, et que du simple fait que ce sont des règles, elles seraient systématiquement appliquées. Alors on peut voir maintenant, depuis plus de 200 ans, qu'il y a une expérimentation sociale qui est menée, alors je dis plus de 200 ans en France, mais c'est aussi menée à d'autres endroits, on peut voir que cette jolie utopie ne marche pas du tout. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne marche pas du tout ? Eh bien, c'est une histoire de nature humaine. Il se trouve que pour que ça marche, il faudrait que des gens qui sont en position de pouvoir acceptent à des moments, par pure honnêteté, acceptent de mettre en danger cette position de pouvoir, acceptent d'obéir eux-mêmes aux lois qu'ils font. Et ben ça, on a pu se rendre compte depuis que ça n'est que juste comme ça n'a jamais marché nulle part autour de la planète, alors que ça a été énormément expérimenté, on peut en conclure que ça ne marche pas. Il serait donc temps d'essayer plein d'autres choses et plein d'autres manières de faire. Et par exemple, c'est ce qui a été fait sur la ZAD. Alors, on essaye d'être en ligne tout de suite avec une personne de la ZAD, une personne qui s'occupe du service de presse, ou je ne sais plus comment ça s'appelle précisément, de la ZAD, quelqu'un qui s'appelle Camille, et qui va pouvoir nous dire un petit peu à la fois comment ça se passe sur place aujourd'hui, si l'humeur est festive, et à la fois ce que sont un peu les perspectives pour la suite. Est-ce que... Non, alors on dirait que pas encore. Pas encore. Alors, on va voir que... donc revenons un petit peu sur...
À combler.
Ah.
Non. Ah, ça y est. Est-ce que là tu nous entends, Camille ?
Oui, je vous entends.
Ah, super.
C'est super.
Bonjour.
Bonjour, salut. Bonjour. Alors Camille, vous êtes dans quelle humeur là tout de suite ? Dans quel état d'esprit ?
Ah là, je suis un peu fatiguée. Mais là, comme vous pouvez l'entendre, il y a une ambiance incroyable, vraiment. Non. En fait, je suis dans un bureau où je suis presque toute seule. Mais sinon, c'était la folle ambiance. Il y avait tout le monde criait de joie, dansait, chantait des chansons un petit peu limite footballistiques. Mais c'était super, c'est super.
Ok, alors on a beaucoup entendu, en fait on l'a surtout énormément entendu juste avant le discours du Premier ministre, qu'il y avait énormément de flics, de CRS, de gendarmes, de toutes sortes de monde qui se dirigeaient vers la ZAD. Est-ce que vous les avez vus arriver ?
Pas du tout, non. Non, ils ont dû avoir peur, du coup ils ont fait demi-tour.
Ah, très bonne idée.
Non, en fait on a commencé à un petit peu flipper hier soir parce qu'on a entendu, enfin on a suivi évidemment... En bon connecté qu'on était, les informations en direct, mais c'est pas sur internet, et ça a commencé à nous faire un peu peur. Et en fait, bon, je pense qu'ils avaient mobilisé des centaines de flics autour de Rennes et Nantes parce que par rapport à une réaction, je sais pas quoi, qu'on aurait par rapport à la décision. Et voilà, et après on était censé être entouré de flics ce matin, mais finalement non, ils sont pas venus.
D'accord. Alors je vais te poser juste après des petites questions sur ce que risque de devenir la ZAD globalement et les habitants de la ZAD. Mais alors en premier, avant, je voudrais peut-être que tu peux nous éclaircir un petit peu. Mais il semble qu'il y a un énorme enjeu, à la fois dans le discours de Édouard Philippe, à la fois dans des articles qu'on lit ici et là, un énorme enjeu sur des histoires de route, sur la ZAD. Et de là où on est, je dois dire que c'est pas toujours hyper clair.
Et c'est pourtant, c'est le premier truc qui ressort, en tout cas, dès qu'on l'a en regardant 5 minutes les articles, c'est le premier.
Il y a une départementale qui est fermée et ça a l'air d'être à la fois bien et pas bien qu'elle soit fermée. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que cette salade?
Alors, c'est une longue histoire, histoire de la route des chicanes, ça s'appelle. Il se trouve que pendant les expulsions en 2012, enfin la tentative d'expulsion, évidemment, il y a une grosse résistance et donc il y a cette route qui est un des accès, en fait, une voie d'accès à la ZAD qui a été bouchée par des barricades, etc. Ensuite, elle a été fermée par les services publics, enfin, je sais pas comment on dit, les autorités, quoi, parce que c'était un peu le bordel sur cette route, il y avait des bouts de barricades, machin, et du coup...
Et ça veut dire quoi qu'elle a été fermée? Ça veut dire qu'eux, ils ont rajouté des barricades à vos barricades?
Ça veut dire qu'eux, ils ont mis des gros blocs de béton à l'entrée, sur la partie qui passe sur la ZAD, donc à deux carrefours, et eux, ils l'ont fermé administrativement. Sauf qu'après, avec le mouvement, tous les agriculteurs, toutes les composantes, les adis, tout ça, on s'est dit non, il ne faut pas que cette route soit fermée, donc on l'a réouverte avec le mouvement. Mm-hmm. Mais en même temps, on voulait qu'elle soit ralentie, parce qu'il y a des gens qui vivent à côté et même qui vivent dessus, parce qu'il y avait des histoires de un peu. Faire attention à que les flics rentrent pas sur la zone, donc il y avait des histoires de rester un peu vigilant sur cette zone.
Ouais.
Et voilà, donc il y a des gens qui vivent un petit peu autour de la route, et puis ensuite c'est devenu tout un monde. Voilà, si vous passez sur cette route, vous pourrez voir des carcasses de voitures avec des fleurs qui poussent dedans, des trucs en métaux, des espèces de... je sais pas quoi, un chef-d'œuvre un petit peu squato-artistique qui traîne sur la route. Et voilà, bon, après, il se trouve que tout le monde n'est pas non plus fan de cet art-là, et donc il y a des gens qui voudraient que cette route soit fermée, soit ouverte, pardon, et donc qui est plus rien sur la route, quoi. Et il se trouve que, forcément, c'est un des enjeux du gouvernement, en fait, parce que c'est un peu les trucs qui ressortent. Ah, c'est un petit peu l'image qui ressort, on va dire, de la ZAD vers l'extérieur, quoi. Et il y a eu beaucoup d'histoires autour de cette route, que les gens ne pouvaient pas y passer comme ils voulaient, que certaines personnes étaient arrêtées à l'entrée pour contrôler, entre guillemets, pour pouvoir passer. Donc voilà, il y a tout un folklore autour de la route. Et pour le gouvernement, je pense que c'est un peu un symbole de la zone de Mont-Droit. Et je crois qu'ils ont envie aussi de... de dire qu'ils ont évacué symboliquement cette zone en étant cette route, quoi.
Et alors, ce dont je ne me rends pas vraiment compte, même là, après ton explication, c'est si vous allez vouloir la rouvrir complètement, cette route, ou si quand même pas tant que ça, parce qu'il y a encore beaucoup de méfiance à avoir.
C'est un peu une question en tension, on va dire.
D'accord.
C'est, je crois qu'il y a une volonté réelle que cette route, elle soit pas, disons, rendue à la normale pour qu'elle puisse être...
Le numéro que vous avez demandé n'est pas accessible.
Ah. Votre appel
ne peut aboutir.
Il était accessible il y a une seconde. On va essayer de joindre à nouveau Camille. Et on va essayer de la joindre. Pour qu'elle nous réponde à des questions sur ce qu'elle pense sur les perspectives possibles pour la ZAD, pour les terres de la ZAD et pour les gens qui y habitent, en sachant que Édouard Philippe aujourd'hui, dans son discours où il a parlé de l'état de droit, a parlé effectivement de cette route. Et il a aussi parlé des situations différentes des terres et des logements sur la ZAD. Alors, en gros... Donc lui, il a dit que la route en question devait être libérée tout de suite, autrement c'était les flics. Ça serait le truc le plus immédiat. Et puis, il a parlé des terres. Et donc, pour lui, les paysans qui ont été expropriés, donc les terres ne leur appartiennent plus, elles appartiennent à l'État, ces paysans qui veulent revenir, qui veulent récupérer les terres qui ont été à eux, devraient pouvoir les récupérer. Pour lui aussi, les personnes qui sont sur ces terres, mais qui sont là illégalement, qui squattent les terres. Alors attention, quand on parle de squat, bien sûr, on parle de gens qui travaillent les terres en question. mais qui n'ont pas de titre de propriété. Ces gens-là devraient se barrer d'ici le printemps, d'après le Premier ministre. Ah, et on a à nouveau Camille en ligne.
On se croirait comme ça, presque comme sur France Info, quoi.
C'est ça. Alors, Camille, maintenant, toutes ces terres...
Hein ? Oui, on nous a dit que ton numéro n'était pas attribué.
Oui, c'est ça, tout d'un coup, tu n'étais plus attribué.
Ben oui, c'est affreux.
C'est affreux.
Je vous écoute, je ne sais plus ce que je vous racontais, un truc sur la route.
Oui, mais on avait à peu près fini avec la route, il me semble. Et maintenant, nous, ce qu'on voudrait bien savoir, c'est que c'est finalement toute cette zone sur laquelle aurait dû être construit l'aéroport. C'est une zone sur laquelle beaucoup de gens vivent, des gens qui sont là depuis très longtemps, des gens qui sont là depuis moins longtemps. Et qu'est-ce que ça va devenir ? Qu'est-ce que ça risque de devenir et qu'est-ce que vous aimeriez que ça devienne, vous, les zadistes ?
Bah, je pense que dans la tête des gens qui sont au gouvernement, cette zone, elle devrait, enfin, et dans plein de, la tête de plein d'autres gens, mais cette zone, elle devrait retourner à la normale, j'ai l'impression. Et ce qu'ils attendent, c'est que voilà, les paysans qui sont là depuis longtemps, ils continuent leur exploitation, et puis que ceux qui font pas bien dans le décor, en fait, ils se barrent.
Ouais.
C'est pas trop ça, nous, qu'on a en tête. C'est-à-dire que nous, on s'est battu pour garder cette zone avec les agriculteurs qui étaient là depuis... Enfin, en fait, nous, entre guillemets, les opposants qui sont arrivés après, en fait, dans les 10 dernières années.
Mm-hmm. C'est ça, c'est pour rappeler... Voilà, pardon, ça fait combien de temps, grosso modo, qu'on pourrait dire qu'il y a les premiers squatteurs ou zadistes qui sont venus sur la ZAD?
En fait, ça fait une dizaine d'années, ça fait 10 ans que les premiers squatteurs sont arrivés.
Mais c'est pas rien, quoi.
Il y a eu un appel en 2009 pendant la Camp Action Climat. Et du coup, là, il y a plus de gens qui sont venus. Mais en fait, ces personnes sont venues à l'appel des habitants de la zone, quoi. Qui se sentaient un petit peu trop seuls face à l'oppression de l'État.
Ouais.
Donc à un moment, il y a des gens qui sont venus occuper des milieux squats, des milieux anarchistes, des milieux libertaires, ou des gens qui voulaient s'installer un petit peu à la campagne. Et du coup, au fur et à mesure, il y a des personnes qui sont arrivées jusqu'à maintenant. Et du coup, ça fait plusieurs années pour certains qu'on est là. Et donc on s'est installé, on a construit nos lieux de vie, on a construit nos vies, quoi. Donc nous, on veut rester là et on veut... continuer des projets avec les personnes qui vivent ici, avec les gens qui ont mené cette lutte aussi. Et évidemment, l'abandon de l'aéroport, c'est une grosse victoire, mais c'est qu'une partie de la victoire, quoi. Parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir rester ici et continuer à vivre aussi sans rentrer ensuite dans
c'est dans ça, parce schéma, que parce que vous avez quand même développé collectivement à énormément de gens et sur une période qui commence à être longue, une manière de vous organiser qui est quand même pas exactement classique, quoi, et qui en gros se passe de l'État.
Oui, voilà, oui, c'est clair. Bah oui, on s'organise de manière horizontale, enfin en tout cas tant qu'on peut. On s'organise le plus possible collectivement, en collectivisant du matériel, en collectivisant les terres, en faisant énormément de discussions, de réunions, de partage, en vivant, en cultivant sur les terres, mais en repartageant la production. Enfin, cette production, on la partage après, les gens l'acquièrent à prix libre, quoi. Et ensuite, il y a des choses qui sont vendues à l'extérieur, mais c'est pareil, la plupart du temps, c'est à prix libre. Donc c'est une manière aussi de dire, en fait, personne meurt de faim ici, et puis on cherche pas une autonomie complète, mais en tout cas, quand on peut, on partage ce qu'on a, quoi.
C'est ça, parce que moi, je trouve que c'est important de souligner qu'effectivement, ça fait 10 ans que sur cette zone, il y a des gens qui vivent, et en fait, ça fait pas 10 ans qu'il y a des gens qui cherchent juste, enfin, qui attendent juste que les flics arrivent et qu'il y ait une réponse en face et tout. Il y a des moments où il y a ça parce que stratégiquement, il y a besoin qu'il y ait ça, mais en fait, ça fait 10 ans qu'il y a là-bas une vie qui s'organise et qui s'organise de manière plutôt chouette, d'après ce que tu dis, quoi, en tout cas.
Ah bah oui, mais ce serait un peu chiant pour les gens qui attendent derrière les barricades en disant qu'ils s'emmerderaient au bout d'un moment. Non, c'est un peu plus complexe que ça. Enfin, heureusement, enfin, je ne sais pas si vraiment les autorités y croient à cette mascarade-là, enfin, cette espèce de truc où il y aurait des gens effectivement qui seraient 24 heures sur 24 dans une optique conflictuelle, enfin, je ne sais pas comment dire, mais un truc d'affrontement perpétuel, quoi. Et évidemment, s'il faut se défendre, ben on se défendra. Mais
oui, c'est ça, parce que dans les déclarations des derniers jours de gens du gouvernement, il y a Gérard Collomb qui nous parlait d'expulser uniquement les gens les plus radicaux.
Oui, voilà. Bon, ben voilà, on les a notés. Bien sûr, on a écrit sur leur front qui sont les radicaux.
Et bah, tant mieux, ça facilitera le travail.
Non, mais c'est un peu ridicule. Enfin, vous voyez, c'est un peu l'image débile de les méchants et les gentils, quoi. Bah, forcément, ça. C'est évident que quand on est à la tête d'un État, on est obligé de faire cette espèce de dissociation complètement idiote. Mais enfin bon, la vie, c'est pas comme ça, quoi. Il n'y a pas des gens qui seraient, je sais pas, qui sont dans un affrontement, enfin ce que je disais, quoi, dans un truc d'affrontement permanent, et d'autres qui seraient gentils et qui essaieraient de construire. En fait, voilà, les gens qui se battent, qui résistent, et ben ils se battent comme ils peuvent. Et puis à un moment, s'il faut en arriver à de l'action directe, et ben enfin voilà, on fait de l'action directe, comme on s'est battu, on a fait des recours juridiques, il y a des gens qui ont fait des grèves de la faim, il y a des gens qui sont battus de plein de manières différentes, il y a plein de comités locaux, plein de gens à l'extérieur qui nous soutiennent, qui font des manifestations chez eux, qui font des, je sais pas, des cabanes, des trucs en soutien, enfin tout un tas de machins, de lettres, d'œuvres d'art qui nous envoient, enfin je sais pas, il y a tout un tas de soutien possible, et en fait... c'est cette diversité-là qui a permis au mouvement de gagner aujourd'hui, en fait. Cette victoire-là, on la doit uniquement à notre diversité et au fait qu'on ne s'est jamais lâché les uns les autres.
Et alors, maintenant que vous avez gagné, est-ce que vous craignez des divisions, et par exemple sur des enjeux de qui va récupérer les terres ou sur d'autres enjeux?
Ben, là, c'est clair que nous, on s'est engagé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, en fait, à justement empêcher cette division et essayer de continuer à travailler ensemble et à construire cette zone ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, on se base sur ce qu'on appelle les 6 points. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un petit peu
des
bases collectives pour rester ensemble, pour que tous les gens qui sont là viennent restent, pour que les agriculteurs qui étaient là puissent rester, pour que les anciens habitants puissent rester, pour que les nouveaux habitants puissent rester. Clairement, ça veut dire, en fait, on se respecte les uns les autres, on respecte nos pratiques. Et voilà, tant qu'on se tire pas dans les pattes, en fait, on est capable de construire ensemble, et c'est sur cette base-là qu'on veut rester. Et voilà, puis après, ensuite, on construit, évidemment, des trucs un peu plus affinés au fur et à mesure du temps, quoi.
En tout cas, c'est sûr que vu de l'extérieur et vu ce qu'on perçoit quand on est loin de la ZAL, on ressent plutôt un truc d'unité. Avec certes, on capte bien qu'il y a des divergences de mode d'action, tout ça. Mais quand même, on sent quand même un front commun. Et j'avoue, sur une lutte qui dure depuis tout ce temps et tout ça, c'est un truc, c'est plutôt chouette à voir, quoi. Ça fait plutôt plaisir à voir et à entendre quand on a des témoignages. C'est quand même vraiment. Vraiment un plus sur ce qui peut se faire, ce qu'on peut continuer à faire sur d'autres luttes ou des trucs comme ça, en tout cas.
Oui, en tout cas, c'est sûr que c'était une manière de montrer que c'était possible de dire non, en fait, et de dire, bah non, on va pas se laisser faire et on va réussir, malgré nos différences, à exprimer quelque chose ensemble. Et je peux vous dire que des différences, il y en a, quoi. Enfin, c'est clair que les gens, ils s'organisent pas du tout de la même manière, ils viennent pas des mêmes cultures. Il y a vraiment des gens qui viennent de milieux absolument différents, même de classes sociales différentes, et voilà, en fait, au contraire, enfin, je pense qu'au fur et à mesure, au fur et à mesure du temps, il y a des pratiques, enfin, il y a eu des glissements, et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui ont changé de discours, et pas, enfin, voilà, dans les plus radicaux, entre guillemets, comme dans les plus citoyennistes, ou je sais pas quoi, enfin, en fait, il y a vraiment plein de changements, et en fait, ça, c'est hyper bien, quoi. Et en fait, personne, enfin, il y a très peu de gens qui restent campés sur leur position à dire, ben, de toute façon, moi, je suis arrivée comme ça il y a 10 ans, et puis j'aurai la même pensée unique pendant tout ce temps. En fait, c'est pas possible, et c'est ça qui est super, quoi. Vraiment, on a réussi, enfin, en tout cas, je crois, ça, c'est une énorme réussite de cette lutte. Je suis très fière, donc je vous en parle avec enthousiasme.
Eh bien ça c'est sûr, de toute façon, bah, globalement, enfin, j'imagine que vous devez un peu le savoir, mais que vous suscitez un certain enthousiasme, et sans doute certainement encore beaucoup plus depuis aujourd'hui, puisque ce que vous avez fait aussi, c'est montrer qu'on peut gagner à des mains contre des logiques de pognon, contre une société un peu gigantesque, contre des volontés gouvernementales, contre des centaines de flics, des milliers de flics.
Tout ça en instaurant pardon une espèce de une sorte de zone autonome, on peut le dire, et du coup ça fait deux trucs, je trouve. Ça fait et une victoire face à un projet machin, et en plus cette zone où il y a de l'organisation, il y a tout un tas de trucs avec un projet assez chouette derrière, quoi.
Bah, tout n'est pas encore gagné, hein, parce qu'on a bien vu que bon, il y avait des espèces d'ultimatum aussi derrière l'abandon, hein. Il y a le truc de vous aurez qu'à partir, on vous laisse 3 mois pour partir. Bon,
voilà. Oui, c'est ça. On verra ce que donne tout ça. A priori, là, nous, par exemple, ici à Lyon, on a rendez-vous pour le samedi qui suivrait l'attaque de la ZAD. Et donc, alors, pour les auditeurs qui le connaissent pas, en fait, ce rendez-vous sera à Saint-Étienne et non pas à Lyon, devant l'entreprise Vernet Caron, qui sont les gens qui fabriquent les armes des flics. Donc voilà, tous ces détails seront à retrouver avec l'adresse précise, etc., sur Rebellion. À la ZAD, il y a aussi un rendez-vous le 10 février.
Ah oui, un rendez-vous tout à fait, ben, du coup, pour fêter cette victoire. C'est bien, c'est qu'on l'avait annoncé à l'avance. Du coup, le 10 février, il y a un rassemblement sur la ZAD, donc une convergence avec une déambulation, enfin même peut-être plusieurs déambulations, et plein de fanfares, de chorales, c'est possible de venir même costumé, et puis ce sera un peu ambiance carnaval, quoi. Et voilà, puis bon, ce sera le rendez-vous, c'est à midi, je crois, sur la ZAD, avec donc cette déambulation, et puis un grand moment à partager. Et bien sûr, le soir, il y aura une fête avec plusieurs ambiances différentes. N'est-ce pas, une rêve partie, un fest-noz, et je sais plus quoi d'autre.
Enfin, ouais, il y en aura pour tout le monde.
Vraiment,
quoi.
Tous les goûts, quoi.
Voilà. Super. Et j'imagine que pour les départs d'autres villes en France, il y aura... j'imagine qu'il faut se rapprocher un peu des comités un peu locaux.
Ouais. Et si jamais d'ici là, ou même après, si on était au coin, vous faisiez attaquer vraiment par la police, est-ce que vous avez plutôt envie que des gens disponibles viennent vers la ZAD ou pas plus que ça ?
Allô ?
Ah.
Est-ce que
on
tu...
dirait, Camille, que tu ne nous entends plus.
Ah bah tant pis.
Bon, de toute façon, on arrivait un petit peu au bout de cette interview, donc on n'aura pas de réponse à cette dernière question, mais j'imagine que si jamais ça se passait, on aurait assez facilement la réponse, que ça soit sur le site zad.nadir.org ou sur Indie Media Nantes, ou globalement sur les réseaux sociaux, les Twitter et les machins. Eh bien écoutez, il est 19h29 sur Radio Canu et on va passer au reste de l'info parce que malgré tout, il y a encore un petit reste de l'info. Et pour le rassemblement de victoire, le rassemblement festif de victoire ce soir à Lyon, au square machin chouette, le jardin carré à côté de la préfecture, j'ai reçu un SMS juste après 19h. Il y avait une centaine de personnes. Le square était fermé, 2-3 flics à chaque entrée. Et les gens papotaient tranquilles, chantaient un peu. En tout cas, c'était plutôt joyeux et tranquille. Alors voilà, mon collègue est occupé à autre chose, donc pas de re-petite musique. Tout ça avant de vous dire que, eh ben, il n'y a pas que des bonnes nouvelles et que pendant l'année 2017, le site Bastamag a compté le nombre de personnes qui se sont fait descendre par les flics. Alors on parle d'abord des personnes qui ont vraiment été descendus, c'est-à-dire tués par balle par les flics pendant l'année 2017, et il y en a quand même 18. 18, ce qui veut dire une moyenne de 3 tous les 2 mois. Ce qui est quand même pas rien. Les flics, là, on parle de policiers ou de gendarmes. Et une personne est aussi morte à la suite d'un tir de flashball. Ça, c'était à Auxerre, c'était le 6 janvier 2017. Donc les armes non létales, des fois, elles sont un petit peu létales quand même. Spécificité de l'année 2017, c'est que sur ces 18 personnes, il y en a la moitié qui ont été abattues par des policiers ou des gendarmes en dehors de leur service. Et ça, bien sûr, tout ça suite à toutes ces histoires d'autoriser les flics à se balader armés en dehors de leur service. Alors bien sûr, ça sert à protéger les populations, ça sert tellement à protéger les populations que, écoutez, le 10 septembre, un flic a assassiné avec son arme sa femme et ses deux enfants de 3 et 5 ans. Ça, c'était dans l'Oise, avant de se suicider. Donc voilà ce que ça donne aussi les policiers armés en dehors du service. Le 18 novembre, un autre agent a abattu 3 personnes à Sarcelles, dont 2 qui tentaient de s'interposer alors que lui était en train de bastonner sa copine. Donc dans la rue, il commence à cogner sa copine. Là, il y a des gens qui font « Non, mais en fait, c'est bon, ça suffit. » Il les descend. C'est aussi ça, les flics qui gardent leurs armes en dehors du service. Et il a aussi, il a aussi blessé plusieurs membres de sa belle-famille. Et puis, il s'est lui aussi suicidé. Alors, bien sûr que ces deux affaires nous interrogent surtout au moment où le gouvernement est en train de réfléchir à une possibilité d'étendre la possibilité de porter une arme, non seulement aux flics, mais aussi aux vigiles des sociétés privées qui sont encore moins formés que les flics et sans doute facilement encore plus prompts à dégainer un peu n'importe quand, n'importe comment, et entre autres pour des conflits privés ou des pétages de plomb. Pour les 9 autres personnes qui ont été abattues par les flics lors de missions traditionnelles de maintien de l'ordre, c'est-à-dire en tout cas pendant que les flics étaient en service, il faut quand même bien savoir que s'il y en a une qui avait déjà fait feu sur un flic, lui c'est un gars qui était en train de se faire virer de son logement à Draguignan, 3 étaient seulement armés d'une arme blanche, donc de couteau, et puis 5 n'étaient pas du tout armés.
Ah oui.
Ouais, quand même. Et donc, en plus de ces 18 personnes tuées par balle ou flashball, il y a encore 16 personnes qui sont mortes des suites d'une intervention policière. Donc là, ce n'est plus des gens qui se sont fait descendre. C'est, alors vous allez voir, 3 personnes qui sont décédées pendant leur garde à vue suite à un malaise. Un motard arrêté pour excès de vitesse. Hop, il se retrouve en cellule à Arpajon et puis non, bah, il meurt dans sa cellule. Pas bien plus de précision. Un jeune homme de 6 ans, de 16 ans, issu de la communauté des gens du voyage, décède pendant sa détention dans une gendarmerie en Charente, le 13 octobre. Un Espagnol d'origine sénégalaise, il faut comprendre noir, meurt des suites d'une asphyxie après avoir été interpellé à Paris le 22 novembre. Donc là, on remarque aussi que sur les 3 personnes en question, il y en a quand même 2 qui ne sont pas blanches ou pas entièrement blanches. Parmi ces 16 personnes tuées lors d'une intervention, 5 se sont tuées elles-mêmes en fuyant la police, 2 alors qu'elles tentaient d'échapper en voiture à des patrouilles à Toulouse, 2 autres à Lille poursuivies par une équipe de la BAC, 1 par noyade en se jetant dans la Seine après avoir été menottée. Alors bon, ceci dit, effectivement, si à un moment vous êtes menotté par les flics sur un pont du Rhône, par exemple, évitez de vous jeter à l'eau. C'est pas le truc le plus malin à faire. Et enfin, un quinquagénaire qui, lui, a juste été renversé par une voiture de patrouille alors qu'il circulait en scooter. Ça, c'était le 14 juin. Voilà, la police nous protège.
Et en complément de cette info, il y a Paris Lutte Info qui a sorti, il semblerait, une info exclusive il y a de ça quelques jours, où il semblerait que le préfet de police de Paris a interdit à la police nationale l'usage du LBD-40, qui est le lanceur de balles de défense 40, pendant les manifestations. Vous voyez, pour les différencier, il y a 2 types de flashball en France. Il y a le double, hein, un petit avec deux canons. Celui-là, il est moins puissant. Et celui qui est interdit, c'est l'autre avec une crosse. Les gendarmes, c'est celui qui est utilisé la plupart du temps en manif. Il y a une crosse, le gendarme le porte à l'épaule. Voilà, donc ça, on n'a pas bien compris si ça faisait suite ou pas à un rapport du défenseur des droits qui a remis un rapport du coup à l'Assemblée nationale sur le maintien de l'ordre en France. Rapport, alors je vous cache pas que je l'ai pas lu, mais de ce que j'ai entendu dire, c'est quand même plutôt à charge contre, enfin à charge, pas, en tout cas de manière assez factuelle, trouve qu'il y a clairement des abus de la part de la police, et en tout cas des manquements aux règles sur l'usage des armes dans les manifestations. Donc voilà, donc a priori, à Paris, la police n'aurait plus le droit d'utiliser ça. Et voilà, je cite hein, le préfet de police, il dit, le préfet de police a quant à lui indiqué à la mission avoir pris la décision d'interdire l'usage du LDB 40x46, hein, qui est le calibre, bref, dans les opérations de maintien de l'ordre au regard de sa dangerosité et de son caractère inadapté dans ce contexte, hein, ce qui ça fait des années et des années que c'est dit.
C'est ça, c'est que peut-être que le rapport du défenseur des droits aussi était une goutte d'eau dans un vase déjà bien plein de critiques qui viennent quand même d'un sacré paquet d'endroits, entre autres la Ligue des droits de l'homme, entre autres plein de gens qui se préoccupent à un moment de maintien de l'ordre et qui trouvent que ce flashball est quand même hyper dangereux.
Et aussi au nombre de mutilations et de blessures graves qu'il y a eu sur le mouvement de la loterie qui était complètement dingue par rapport à tout ce qui avait pu se passer avant. Je continue de citer, cette évolution est positive et s'inscrit dans le sens d'une meilleure adéquation entre les moyens mis à la disposition des forces de sécurité et l'objectif du maintien de l'ordre. Bref, voilà, donc c'est pour dire que continuons la lutte sur le désarmement de la police. Et on va alterner bonne nouvelle et mauvaise nouvelle, mais cette fois-ci, du coup, c'est moi qui annonce la bonne nouvelle. Et donc, ça continue niveau occupation. Alors, puisqu'il paraissait donc pas très stratégique de pousser les murs de l'Amphiz, un nouveau bâtiment a donc été réquisitionné afin qu'il puisse héberger d'autres personnes. Et c'est donc encore une fois, donc là on est à Lyon, hein, pardon, j'ai pas précisé, mais encore une fois, à la fin d'une manif en solidarité aux migrants, que le lieu s'est fait connaître du public. Alors la manif a eu lieu samedi dernier, a réuni quelques 500 personnes, qui était là pour exiger un toit et des papiers pour tous et toutes, le tout en déambulant dans les rues de Lyon au cri de « Tout le monde déteste Gérard Collomb », ce qui, entre parenthèses, est plutôt vrai, hein. Il semblerait que même la mort n'en veut pas, hein, ce qui ne nous arrange pas vraiment. Mais bon, on peut se dire qu'elle est déjà un peu occupée par Manuel Valls. Bref, suite à cette manif, un nouveau squat s'ouvre au public à Villeurbanne. L'ouverture est revendiquée par le collectif Agir Migrant et le collectif Amphiz Solidaire. Ah, alors quand même, je précise, hein, Amphiz, pour ceux qui n'ont vraiment, mais alors vraiment rien suivi de l'actu lyonnaise, l'Amphiz, c'est le squat qui est ouvert suite à l'occupation de l'amphi C à la fac de Bron, qui a été occupé suite à l'expulsion des migrants qui squattaient des escaliers abrités à la gare Pardieu. Vous voyez, hop, c'est bon, vous avez remonté le fil. Voilà, donc toutouk, hop, événement en cascade. Un squat, deux squats, c'est cool, affaire à suivre. En tout cas, deux squats de migrants dans la ville de Gérard Collomb, ça fait quand même plaisir.
C'est encore moi qui reviens encore avec une mauvaise nouvelle, et cette fois-ci c'est la jeune Ahed Tamimi qui reste en prison. Alors qui est Ahed Tamimi? On avait déjà parlé ici, mais je crois qu'on n'avait pas cité son nom parce qu'on ne le savait pas à l'époque. C'est cette jeune fille de 16 ans, palestinienne, qui apparaît sur une vidéo où elle met des gifles, voire un petit peu des coups de poing à un militaire israélien. Alors finalement j'ai quand même fini par regarder cette vidéo dont on a beaucoup entendu parler. Effectivement, elle est avec une autre fille, puis deux autres filles, au moins une de ses filles et sa cousine, face à deux militaires israéliens qui sont quand même plutôt des gentils pour le coup, parce qu'effectivement, ils ne défendent pas beaucoup, mais ils sont très très énervés. Il faut dire par exemple que le père de Haïd Tamimi a passé énormément de temps en prison à cause de la lutte politique contre l'occupation. Et donc, elles engueulent le militaire et elles lui mettent des petites claques. Ce n'est pas non plus un passage à tabac. Hein. C'est une jeune fille de 16 ans qui met des claques à un militaire. La vidéo, il y a quelqu'un qui a filmé. La vidéo a circulé sur Internet. La jeune fille a été retrouvée et arrêtée. Elle risque pas mal de prison. Et aujourd'hui, un tribunal militaire a décidé son maintien à détention jusqu'à son procès. Elle est en prison depuis, je ne sais pas, je n'ai plus sous les yeux, mais en tout cas, ça fait déjà quelques mois. Et voilà, il faut dire que, alors, elle a quand même une histoire, et puis sa famille a une histoire aussi. En 2012, déjà, elle était pour le coup vraiment gamine, parce que si elle a 16 ans aujourd'hui en 2018, ça veut dire qu'en 2012, elle en avait 10. Et ben, elle s'était déjà distinguée en brandissant le poing sous le nez de soldats israéliens. Des images qui avaient déjà à l'époque fait le tour du monde. Et donc son père Bassem, souvent à la tête de manifestations contre les colons israéliens, a été emprisonné plusieurs années. Voilà, déçu par l'absence de perspective de règlement de paix avec Israël et exaspéré par la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, les Palestiniens voient en Ahed Tamimi une nouvelle héroïne.
Bon, et alors, ce Canu Info touche à sa fin, juste le temps, de vous dire que jeudi, donc demain, entre 17h, enfin à 17h, bref, en solidarité avec les grévistes de l'hôtel Holiday Inn de la Porte de Clichy à Paris, eh bien, faisons jouer la solidarité, nationale ou internationale, bref, on s'en fout, puisqu'un rassemblement est appelé par, il me semble, la CNT, devant l'hôtel Crow Plaza, ce jeudi 18 janvier à 17h, 22 quai Charles de Gaulle. Ensuite, il y aura une projection débat demain à l'usine à Villeurbanne à 19h30 à la MJC donc de Villeurbanne. Et samedi, une rencontre avec Aude Vidal, auteur du livre Écologie à la librairie La Griffe. Et c'est à 15h.
Et puis rappelons que si jamais, puisqu'on a souvent du mal à comprendre comment fonctionnent les décisions autour de la répression, si jamais la ZAD était attaquée dans les temps qui viennent, n'importe quand, il y a un rendez-vous le soir même à la Pardieu. Je ne sais plus précisément où ni à quelle heure, mais peut-être toi qui es devant Internet, tu... Non.
Non.
D'accord, mais ça sera en tout cas trouvable facilement sur Rebellion. Et puis le samedi qui suivrait l'attaque à Saint-Étienne devant les locaux de l'entreprise Vernet Caron. Pareil, l'adresse sera trouvable facilement sur Rebellion.
Voilà, il est temps de nous quitter.
Il est temps de laisser l'antenne pour pouvoir écouter un petit peu de musique avant Idées Noires, l'émission de la CGA, à 20h, la coordination des groupes anarchistes.
Merci de nous avoir écoutés.
Ciao.
À la semaine prochaine.
Radio Canu, la plus polymorphe des radios. On vient d'écouter. On vient d'écouter HTRK avec le morceau synthétique.
Bah oui, synthétique. Et avant, c'était Cat Power. Avec un morceau dont je ne connais pas le nom, mais qui est tiré de l'album Speaking to the Trees.
Et tout d'abord, nous avons écouté Elizabeth Bruce avec un morceau qui s'appelle Un peu plus intime.
Intime.
arrested. Now they wanna show us in a book in the blue. Never passing history, but still you're angry. Ain't no getting out of the buckets of blood. If you can see it, and you believe it. You told me that I'm a waste man. Ain't no getting over that they bucket of blood. How long will you hate me? I try to rape me. Ain't no getting out of the bucket of blood.